C'est en 1760 qu'est construite la langue des signes française, dite LSF, à partir de la méthode de l'abbé de l'Épée. Au 19e siècle, le professeur Laurent Clerc émigre aux États-Unis où il transmet la LSF qui deviendra outre-Atlantique l'ASL pour American Sign Language. Or, à la fin du 19e siècle, la personne sourde, parce qu'elle s'éloigne trop des critères de normalité, fait peur. Comme à l'époque, la science ne sait pas comment faire entendre les sourds, elle a résolu de les faire parler. En 1880, le Congrès international pour l'amélioration du sort des sourds-muets qui se tient à Milan entre le 6 et le 11 septembre, dit Congrès de Milan, proscrit l'utilisation de la langue des signes dans l'enseignement. Alors que l'American Sign Language, l'ASL, prospère en Amérique, la langue des signes française s'enfonce dans l'obscurantisme en Europe continentale. Ce coup d'arrêt explique en partie la différence entre la LSF et l'ASL, mais plus important et plus grave, cette tentative d'absorption par la norme sociale majoritaire a constitué une violence dont la communauté sourde tente encore d'exorciser les conséquences. C'est dans la suite des mouvements de 1968 et sous l'influence du mouvement américain des minorités, ainsi que le réveil sourd des années 70, que la renaissance de la langue des signes française s'amorce. Une réappropriation de l'identité sourde s'opère, notamment à travers l'International Visual Theatre, un théâtre joué en langue des signes par des personnes sourdes. Ce théâtre n'est cependant pas la seule forme d'expression artistique constitutive de ce qu'on appelle la culture sourde.
Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur le 93.9 FM. Une émission de la Compagnie des Rêves Lucides, coproduite par Radio Campus Paris. Un jeudi sur 4, à 20h.
Olivier Chétrit, bonjour. Vous êtes comédien et anthropologue, chercheur contractuel au CNRS. CEMS, Centre d'études des mouvements sociaux. Vous êtes diplômé de l'EHESS en anthropologie visuelle et ethnologie sociale. Vos recherches portent sur la culture et l'identité sourde. Dans le studio, on a également avec nous aujourd'hui Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Iman et merci pour la lecture de l'édito. Alors, nous avons aussi Jérôme. Excusez-moi, j'ai un souci avec votre nom de famille.
Bourgeois.
Jérôme Bourgeois.
Pas très compliqué, Pascal.
Voilà, c'est pas très compliqué, mais j'avais oublié quand même. Jérôme Bourgeois, qui est l'interprète, puisque Olivier Chétrit s'exprime en langue des signes. Alors, à ce titre, nous devons remercier le CNRS et le FIPHFP, qui est le Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, pour la prise en charge de l'interprétariat ce soir. Voilà, donc un grand merci à eux. Olivier Chétrit, donc on est très content de vous avoir avec nous. Et pour commencer, donc vous êtes anthropologue qui a travaillé sur la surdité, vous êtes sourd vous-même, vous utilisez parfois le « nous » dans vos articles, est-ce voulu ?
Alors, voulu, oui et non. Parce que très souvent, dans les articles de recherche, le « nous » est employé en tant que « nous », communauté de chercheurs. Il ne faut pas oublier que je ne suis pas seul, mais que je fais aussi partie de cette communauté de sourds. Et donc, en tant que chercheur participant, souvent, les chercheurs évoquent le « je », le « moi » dans une démarche plutôt personnelle, et le « nous » inclut les personnes avec lesquelles nous travaillons ensemble.
D'accord. Alors, je vais juste faire une petite interruption dans l'entretien, puisque j'ai oublié quelque chose en prenant la parole tout à l'heure. On avait l'envie de filmer l'émission pour la rendre accessible aux personnes sourdes. puisque nous pourrions filmer l'interprète. Je ne sais pas si on a la possibilité de mettre en place le téléphone pour filmer Iman. Est-ce qu'on peut essayer de le faire tout de suite? Bon, on a raté la première question, mais il n'est pas encore trop tard pour avoir le reste de l'entretien. Alors, on ne promet pas qu'on va y arriver, mais on peut essayer.
Alors, Aymeric est en train de tenter de filmer cette émission. Ça sera une première pour Les Voix
d'accord.
du Crépuscule. Donc voilà, si on ne réussit pas à le faire, bah vous nous excuserez.
Voilà.
Il y aura quand même le podcast.
C'est ça. Et, et on dira sinon si la version filmée est disponible ou pas. Alors, je reprends l'entretien. On a vu en se documentant sur le sujet, Olivier Chétrit, que... aujourd'hui, seuls 15% des enfants naissant sourds ont accès à l'apprentissage de la langue des signes. On pourrait conclure à une importance tout à fait réduite de cette langue. Pourtant, elle semble occuper une place centrale dans de nombreuses recherches. En quoi la langue des signes est-elle plus qu'un moyen d'expression ? En quoi est-elle un vecteur majeur de l'identité sourde ?
En effet, quand vous évoquez ce chiffre de 15% des enfants sourds qui ont accès à l'apprentissage de la langue des signes, c'est en lien justement avec ces travaux de recherche pour pouvoir démontrer et proposer au gouvernement à travers d'articles de la véracité des propos des chercheurs sur la communauté, l'identité, la culture, qui permet justement de faire la bascule sur la question de l'éducation des enfants sourds dans le cadre de l'enseignement. Et actuellement, la situation est plutôt dans ce qu'on appelle de l'inclusion, et la langue des signes a tendance à régresser plus dans le cadre des apprentissages de l'oralisme. Et les chercheurs justement apportent justement ces leviers prouvant qu'il y a cette nécessité. Il y a toujours encore ce débat duel entre les institutions d'éducation, le corps médical et la société de chercheurs qui débattent sur ces questions.
On l'a dit dans l'édito, en 1880, la langue des signes avait été proscrite de l'enseignement en Europe continentale. On considérait qu'il était plus intéressant de faire parler les sourds, de leur apprendre à parler. Et pourquoi le réveil sourd dans les années 70 a cherché à retrouver ce contact avec la langue des signes ?
Il y a deux histoires à mettre en parallèle. Ce congrès de Milan en 1880, mais déjà antérieurement à cela, il y avait le Code Justinien. Qui date du XIe siècle. Un évêque qui...
Justinien l'Empereur ?
Non, non.
L'Empereur, tout à fait.
Ah, d'accord.
Oui.
Absolument.
D'accord.
Qui a promulgué que les personnes sourdes, en regard de la citoyenneté et du patrimoine familial... Vous savez que la parole était liée à celle de Dieu et que l'expérience de la parole permettait l'acquisition de la connaissance et donc pouvait bénéficier d'un héritage patrimonial. Et il fallait absolument pour ces familles-là d'éduquer à la parole leurs enfants, alors qu'à l'inverse, dans les campagnes, dans les champs, la communication se faisait physiquement. Mais dans les villes, c'était un enjeu important parce que le travail manuel n'existait pas. Et ce lien-là a perduré. Il ne faut pas oublier non plus qu'en France, les mentalités étaient très conservatistes et ça a été un héritage. Et on pensait toujours la personne sourde comme étant une personne incapable et déficiente. Et encore aujourd'hui, cet héritage persiste, puisque on ne pouvait pas donner de responsabilité, mais on pouvait transmettre des dots, de l'argent. C'était donné plutôt aux frères entendants qui étaient en capacité et pas aux enfants sourds. Et cette mentalité, encore aujourd'hui, est inscrite. Et donc, de cette époque, effectivement, les sourds étaient des sous-citoyens, avaient des difficultés à accéder à l'éducation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des associations de lettrés, des associations de sportifs qui se sont mobilisées pour valoriser la langue des signes. Et à cette époque, donc, ce que j'expliquais, donc en même temps, les mouvements de 68, influencés par les minorités, les mouvements des minorités noires et des femmes qui militaient aux États-Unis dans les années 60, ont grandement influencé ces mouvements. Et il y a un chercheur, Stocky, qui a reconnu la langue américaine, la langue des signes américaine, comme étant une vraie langue. Et c'est comme ça que se sont qu'ont démarré les recherches en France. Bernard Mottez est allé s'inspirer de ces travaux-là aux États-Unis pour commencer ses travaux de recherche en même temps que le réveil sourd dans les années 70, pour justement valoriser. Et c'est là que justement il y a eu un intérêt dans la recherche sur les personnes sourdes et pas uniquement sur la question de la surdité ou de la déficience qu'il fallait réparer.
Merci. Du coup, juste pour rectifier, Justinien, la loi de Justinien date du 7e siècle. Non, pas du 11, si ça, c'est ça.
7e siècle, oui, en effet.
Merci.
Et d'ailleurs, je crois que c'est Stocko, le chercheur, S-T-O-K-O-E, si je ne dis pas de bêtises.
Alors ça, c'est une erreur de l'interprète dans sa prononciation.
Voilà, donc je le rectifie. Pouvez-vous, Olivier Chétrit, nous parler du concept de corps sourd ?
Oui. Effectivement, c'est l'objet de ma recherche depuis là, puisque moi-même étant sujet sourd, j'ai conscience de cette identité de sourd. Et pourquoi j'aborde la question du corps sourd en lien avec le cerveau ? Le corps est associé. Mais avant, on parle de l'avant-corps et de l'après-corps. En fonction du développement de l'enfant, du regard qu'il peut porter sur lui, de la connaissance, de la conscience ou non de sa surdité. Souvent, la majorité, on le sait et on le dit, 90% des enfants sourds naissent dans des familles entendantes et leurs modèles parentaux sont entendants et ils savent cette différence sans pour autant la conscientiser. Et donc, se disent devoir faire l'effort pour être à l'égal de leur père, de leur parents essayent de faire ces efforts pour faire le maximum d'efforts pour faire plaisir à leurs parents. Ensuite, démarre justement cette conscientisation de la surdité du sujet sourd, d'où intervient la construction du corps sourd. Parce que justement, cette appréhension du monde à travers le visuel s'intègre dans le corps. Il y a ce corps entendant et ce corps sourd qui sont très différents puisque l'appréhension du monde est totalement différente. Et le développement cognitif est très différent. D'ailleurs, c'est ce que j'appelle la pensée visuelle et la construction chez les entendants et chez les sourds sont totalement différentes en ce sens. Le corps en mouvement est spécifique aux entendants dans leur environnement puisqu'ils sont très versé sur la partie de l'appréhension de l'audition, alors que les sourds, pas du tout. C'est pour ça que je parle de corps augmenté, dans le sens où il n'y a pas de manque, mais au contraire, cette appréhension du corps à travers le visuel est augmentée. Voilà. Il y a cette double lecture, ce double sens.
Alors, on a parlé aussi dans l'édito de l'IVT, l'International Visual Theatre, que représente-t-il dans la culture sourde et dans la culture artistique ?
Alors, je remercie vraiment l'IVT. Pour moi, c'est d'importance. J'ai mené une enquête et une étude sur le terrain à IVT de sa création et ça émane de Alfredo Corrado, lui-même sourd américain, qui est venu en France pour enseigner le théâtre parce qu'il n'y avait pas de théâtre sourd. Et au départ, il n'y avait pas du tout de quoi faire. Et il n'y avait même pas de conscience de culture sourde. Il n'y avait pas de conscience de langue des signes, donc de la valoriser. Et donc, il a permis ce développement, cette construction, cette appropriation de la langue, parce que des États-Unis, c'était déjà bien acquis, mais pas en France. Et donc, il a permis cette conscientisation. Et donc, c'est en ça que ça s'appelle le réveil sourd. C'est une sorte d'auto-réparation, puisque c'est une auto-réparation post-traumatique, puisqu'il y a eu cette victimisation, cette ostracisation de la part des entendants envers les sourds, les considérant incapables, les sourds ayant systématiquement tort et les entendants systématiquement raison. Cette intervention a permis cette autodétermination pour permettre une construction de groupe. Et c'est en cela que IVT a été ce que je qualifie d'une biocommunauté. Ce qu'a permis cette conscientisation, c'est l'engagement de certaines personnes sourdes qui ont soit divorcé, quitté leur métier, parce que ils ont permis de prendre conscience que le jeu était là, et ça a été une révolution, vraiment. Ça a permis d'asseoir une identité, de la développer, de la construire. Et comme on fait la distinction entre le sourd S en minuscule et le S en majuscule, c'est justement cette fierté identitaire qui a permis la création de l'art à travers la langue des signes et de permettre la production et la présentation de l'art. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de conscientisation, de conscience de cela, et parce qu'ils étaient bloqués dans l'interdiction et l'impossibilité, et ça leur a permis d'avancer sur ces questions.
Selon vous, quel rôle joue la surdité dans l'art ?
Alors, j'interviens dans différents domaines. Il y a plusieurs typologies. Il y a une sorte d'assimilation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence entre les sourds et les entendants. Et il y a l'art sourd militant, qui est contre l'implant, par exemple, contre l'aspect d'entrée médicale, qui est prégnant, et la fierté de la langue des signes pour montrer justement l'histoire des sourds. C'est trois domaines principaux. Jusqu'à présent, les sourds ne pouvaient pas se valoriser soi-même à travers leur histoire ou leurs traces. Il n'y avait pas de mémoire historique, et l'art a permis cette construction. Et c'est pour ça que je parle d'art sourd, qui est vraiment typiquement sourd. Comme on parle d'art africain, finalement, qui est inhérent à leur groupe, à leur tribu, à leur communauté. Et c'est l'art sourd qui s'est construit grâce au groupe, pas seul, et qui a permis justement le développement autonome de chacun. C'est grâce à cet art sourd.
Et du coup, comment se distingue l'art sourd de l'art muet, donc de personnes qui ne sont pas forcément sourdes, mais qui font le choix de s'exprimer par leur corps, de mettre en valeur la corporalité, corps, plus que la parole, donc de passer par le geste plutôt.
Alors attention, parce que la personne qui serait muette peut entendre.
Oui.
Donc c'est le non-usage de la voix, alors que le sourd peut utiliser la voix. Alors l'éducation a encore une fois cette influence sur la question du bien parler ou pas, mais les sourds sont conscients justement que leur son, leur bruit peuvent déranger, peuvent choquer. Sur la question du corps et de la langue des signes, ce que j'aime dire, c'est que c'est une langue physique et également une langue visuelle. Et c'est pour ça qu'on utilise la langue en lien avec le corps dans l'art. Mais je ne parlerai pas d'art muet, mais plutôt d'art silencieux dans ces cas-là.
Merci.
Pouvez-vous approfondir le concept de corporalité ? Alors écrit C-O-R-P-A-U-R-A. L-I-T-E, accent aigu. Donc, le deuxième O est remplacé par A-U. Et la place du corps dans le rapport des sourds à la musique.
Donc, j'ai travaillé sur ces questions de musique. Je suis passionné de musique. J'ai grandi dans une famille d'entendants et étaient eux-mêmes passionnés de musique. Je me suis posé la question de comment se fait la transposition sous un aspect visuel, à travers d'abord les vibrations. J'aime bien dire que que la musique peut être visuelle, et il y a des sourds qui ont créé le vouzik.
Pourquoi?
Parce que la musique, on enlève le MU, qui est pour les entendants, qui vient du sonore, du son, et le VU, en lien avec le visuel. Ça vient d'Angleterre. Et alors, sur la question de la corporalité, le monde et l'environnement vibratoire permet d'apprécier la musique à l'intérieur de son propre corps. Par exemple, en langue des signes, pour le chant signe, est-ce qu'il est obligé d'apporter de la musique? Non, puisque justement, il y a dans ce monde visuel, que ce soit même à la télé ou dans un lampadaire qui grésille, il y a un rythme visuel qui, justement, s'intègre dans cette corporalité. Donc, il y a une incorporation du monde à travers le corps et le corps devient musique. Et c'est en ça que j'utilise ce terme de corporalité en remplaçant le O par AU.
Et on se posait également la question de savoir si les sourds pouvaient entendre certaines fréquences, donc des fréquences notamment basses, des vibrations dans leur corps. Est-ce que c'est le cas ou pas?
On ne peut pas.
Par exemple, les percussions.
Oui, il y a des sourds qui sont eux-mêmes professeurs de percussions. Et c'est tout à fait envisageable. Sur les voix qui seront des voix dites graves, dès lors qu'il y a un contact, c'est envisageable, mais sur les fréquences aiguës, non, elles ne peuvent pas être perçues. Donc oui, bien entendu, il y a des possibilités de perception. Il y a également des mélodies signées. Mais en fait, le corps peut absolument tout peut être en lien avec la musique dans cette approche-là.
Merci.
Pouvez-vous expliquer le concept de deaf gain et son rôle dans la valorisation de la culture sourde?
C'est un terme anglais qui vient contredire le deaf loss, justement le fait de ne pas entendre. La société souvent considère la personne sourde comme étant la pauvre, comment elle n'entend pas, comment va-t-elle conduire, comment va-t-elle se débrouiller dans la société. J'ai pas de problème pour conduire personnellement, parce que justement le champ visuel est bien plus élargi par rapport aux personnes entendantes. Ça ne veut pas dire que les entendants voient mal. À la différence des entendants, la plasticité cérébrale des personnes sourdes est compensée par le champ visuel du fait de la non-audition. Par exemple, moi, je vois sur un champ visuel de 190 degrés. Même si mon champ périphérique est flou, alors que vous focalisez sur un champ visuel beaucoup plus restreint. Alors, le deaf gain a été créé par deux chercheurs, Dirksen Baumann et Joseph Murray. En 2014, ils ont déjà mis en place ce concept-là de deaf gain. L'idée sous-jacente, en fait, provient des États-Unis, parce qu'il y avait le white gain, le kids gain, etc. Et en fait, à chaque fois, il y a eu cette influence-là. Et nous en sommes emparés. C'est-à-dire que c'est un bénéfice pour les personnes sourdes. Mais également, c'est une écologie des sourds, un environnement qui permet aux personnes entendantes d'en profiter. Et c'est en fait l'avantage proposé aux sourds qui bénéficie aussi aux entendants. C'est ce regard qui est changé, qui n'est plus considéré comme un regard sur le handicap. C'est une inversion du handicap.
D'accord, merci. Alors, on va pas passer à une pause musicale tout de suite. Je le précise parce que je crois qu'on a écrit ça et c'est tout à l'heure qu'on va passer la pause musicale. Ce que je voulais faire, je vais faire une chronique sur Bernard Mottez, mais je voulais qu'on fasse une vingtaine de secondes de silence. Alors, on peut couper les micros. Est-ce que tu peux couper tous les micros, Emery?
Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
Je vais donc vous parler d'un sociologue qui a beaucoup compté pour la communauté sourde, bien que n'étant pas sourd lui-même, j'ai nommé Bernard Mottez. Bernard Mottez naît en 1930 en Côte d'Or et grandit au contact des usines. Son père est ingénieur. C'est sans doute ce qui explique que, diplôme de philosophie en poche dans les années 50, Mottez se tourne vers la sociologie du travail. Il est embauché comme stagiaire au CNRS pour effectuer une enquête dans la fonderie de Lorraine. Dans la sidérurgie de Lorraine, sous la direction de Georges Friedman, et surtout en collaboration avec Alain Touraine, de 5 ans son aîné, qui devient son ami et modèle. Dans les années 60, Mottez est rattaché au laboratoire qui deviendra ensuite le CEMS, Centre d'études des mouvements sociaux, auquel est rattaché notre invité Olivier Chétrit. Mais au début des années 70, suivant l'exemple de son mentor Alain Touraine, qui estime que la crise sociale de mai 1968 a enseigné qu'il fallait s'intéresser à d'autres mouvements sociaux que celui des travailleurs, Mottez quitte la sociologie du travail et commence à s'intéresser d'abord à l'alcoolisme, qu'il avait rencontré sur ses divers terrains, mais aussi pendant son service militaire, puis à la surdité. En 1975, il assiste au Congrès international des sourds à Washington. Il commence une collaboration avec le professeur Harry Markowitz de l'université Gallaudet, université historique de l'étude de la surdité aux États-Unis, créée dans les années 1850 à Washington. Là, je fais une parenthèse sur la coopération franco-états-unienne dans le domaine de la surdité. Vous vous souvenez peut-être du professeur Laurent Clerc, dont j'ai parlé dans l'édito, enfin dont Iman a parlé dans l'édito, qui a migré aux États-Unis pour enseigner la LSF et ainsi donner naissance à l'ASL, American Sign Language. Il y a eu donc cette collaboration fructueuse entre Mottez et Markowitz et l'invention de l'IVT qui s'est faite en France par un sourd américain, un comédien sourd américain, Alfredo Corrado, comme l'a dit notre invité tout à l'heure. Donc, parenthèse refermée, l'année suivante, en 1976, Bernard Mottez publie une étude sur la surdité, dans laquelle les termes langage gestuel, geste ou encore mimique, qui étaient utilisés à ce moment-là, disparaissent complètement pour faire place à l'expression langue des signes. Avec Harry Markowitz, il crée la revue Coup d'œil, qui sera publiée de 1977 à 1986, qui devient le creuset des débats qui animent alors la communauté sourde. En 2009, Bernard Mottez s'éteint à San Salvador, au Salvador d'où était originaire son épouse. Une minute de silence est observée dans toutes les associations et tous les instituts du monde sourd en sa mémoire. Parfois surnommé l'abbé de l'épée des temps modernes, au nom de cet abbé dans l'institut duquel avait été construite la langue des signes, Bernard Mottez est surtout connu aujourd'hui comme l'inventeur du terme langue des signes française, mais son apport va bien au-delà. Il est l'un des principaux acteurs académiques de ce qu'on a appelé le réveil sourd dans les années 1970, qui a sorti les sourds de l'injonction de l'oralité. Iman, je te laisse la parole pour entamer la deuxième partie de l'entretien.
Merci Pascal. Du coup, je vais revenir sur 1880 et en quoi cette loi de 1880 constitue-t-elle, selon ce que vous dites dans vos travaux, un génocide culturel. C'est assez fort comme terme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors attention, il n'y avait pas de loi en 1880, ce n'était pas une loi, c'était un texte.
Pourquoi ?
Alors pourquoi j'emploie ce terme de génocide culturel ? La privation langagière en lien avec la culture, était évidente. Si on ne se nourrit pas, comment est-ce qu'on peut créer ? Comment est-ce qu'on peut s'émanciper ? Comment est-ce qu'on peut produire une œuvre ? Comment est-ce qu'on peut échanger ? C'est une privation d'expression. Imaginons qu'on interdise le français. Comment pensez-vous pouvoir vous exprimer par la suite ? C'est impossible. Déjà, parce qu'il y a d'autres moyens. Nous, pour les personnes sourdes, c'était le seul moyen d'expression, c'était la langue des signes. Et cette privation-là, imaginez 100 ans de silence absolu, d'être privé, c'est-à-dire que les enseignants n'avaient pas le droit d'enseigner en langue des signes, n'avaient pas le droit de travailler. Alors attention, c'était uniquement dans les institutions. Il était interdit d'enseigner. C'est pour ça que j'ai précisé qu'il n'y avait pas de loi. C'était uniquement dans le cadre de l'enseignement. Les enfants devaient apprendre l'oralisme. C'est en ça que le congrès de Milan a pris cette victoire. Mais dans la société, les sourds continuaient à signer. À l'inverse, il y avait du théâtre, il y avait même au sein de la Comédie française, beaucoup de personnes qui utilisaient la corporalité et la gestualité. Et c'était un apport très positif. Mais concernant les métiers, l'accès aux métiers, une fois sortis de l'institution scolaire, il n'était pas envisageable de faire des métiers. Alors c'était des métiers manuels, soit de sculpture ou d'autres. Et c'est en cela que je parle de génocide culturel, puisqu'il y a eu cette privation langagière, et pour moi c'est un terme qui est tout à fait à propos.
Okay. Et
ne permettant pas l'émancipation ni l'épanouissement.
Et toujours sur ce concept de culture sourde, est-ce qu'il y a une unité de cette culture ? Est-ce qu'il y a des similitudes parmi les personnes sourdes dans le monde ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils se retrouvent, en d'autres termes, dans une sorte de culture commune ?
Oui, en effet. J'ai fait une recherche sur la question de l'identité locale, minoritaire locale, puis à l'échelle nationale, et ensuite sur l'identité internationale. Je suis allé en entretien avec des personnes du Brésil, où j'ai pu échanger sur leur situation, leur vécu, sur ce qu'ils ont pu vivre. Et à la même époque, ils ont vécu la même méthode d'ostracisation, d'oralisme imposé, et de besoin de s'émanciper et de se valoriser. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, et même au Japon, l'éducation était similaire à l'éducation oraliste. Et en fait, cette idée-là s'est développée. Alors peut-être que chez les aborigènes, la situation aurait pu être différente. Il y a des entendants qui signent chez les Walipi en Australie. On sait que des personnes, une fois qu'elles sont décédées, les femmes ne s'interdisent de s'exprimer à l'oral, de risque de réveiller les morts, et donc s'expriment en langue des signes. Et je crois qu'ils sont, détenteurs d'environ 4500 signes. Justement, il y a ce besoin justement de transmission et de pouvoir le montrer.
Je voudrais, il y a deux parallèles que vous faites. D'abord, dans la tentative d'absorption du corps sourd par la norme sociale, vous faites un parallèle entre justement 1880, où on proscrit la langue des signes et où on force les sourds à l'oralité, on essaye en tout cas de forcer les sourds à l'oralité, et les implants cochléaires, et notamment les implants cochléaires post-nataux, ou post-natal plutôt, je crois qu'on dit, où donc on va implanter des puces pour faire entendre aux enfants. Et donc vous faites un parallèle entre ces deux choses-là, et vous faites aussi un parallèle entre l'implant cochléaire post-natal et les opérations d'attribution sexuelle sur les enfants intersexes, donc les enfants qui naissent avec des critères sexuels qui correspondent ni aux critères exacts de fille ou de garçon.
Absolument, pour moi c'est similaire. Par hasard, je suis allé une année au festival de Douarnenez, si ça vous évoque quelque chose, sur justement la question de la culture sourde. J'y suis allé, je suis intervenu, et Vincent, lui-même personne intersexe, m'a interpellé et s'est senti très proche de ces questions-là concernant l'implant cochléaire, puisque c'est une chirurgie invasive, puisque à la différence de l'appareil auditif qui est externe, c'est une mutilation, une invasion interne, et la situation est vécue de la même manière. C'est une intervention sur le corps, aussi bien pour les personnes sourdes implantées que pour les personnes intersexes. Et c'est très intéressant, c'est que... Et c'est intéressant justement de remarquer les articles ou les lois qui peuvent être mises en avant sur la connaissance et le domaine médical et les procédures sur les personnes intersexes, et la méconnaissance justement des procédures et des lois pour les personnes sourdes. ADIPAC, c'est une association, un groupe de sourds qui milite contre l'implant cochléaire et a une influence relativement faible. Et c'est problématique, puisque se montrer en tant que personne implantée, c'est assez délicat du point de vue du regard de la communauté sourde, c'est dévalorisant. Et aujourd'hui, la société évolue, mais à l'époque, c'était quand même relativement tabou. Et souvent, on dit que c'est pas la faute de la personne concernée, mais la faute du corps médical qui a fait l'implant, ou la faute du choix des parents qui ont fait le choix pour les enfants. Et donc, il y a des associations qui militent pour le retrait de l'implant. Et Vincent, cette personne intersexe, s'est ressenti vraiment très proche de moi dans cette présentation. Et c'est pour ça qu'il nous a accompagnés, m'a accompagné pour s'emparer justement de cette question-là, car promouvant le choix, le libre choix éclairé, attendant que l'enfant grandisse pour qu'il puisse décider de lui-même de son sort pour les enfants intersexes, et nous a aidé justement dans la constitution d'arguments pour notre question sur l'implant cochléaire. Et il est prévu normalement qu'on organise un colloque sur les deux questions mises en parallèle pour voir quelles sont les luttes communes qu'on peut mettre en place, cette convergence des luttes.
Mais au-delà du fait que ce soit une mutilation, cet implant cochléaire pour l'enfant, est-ce qu'il constitue aussi une menace pour cette culture sourde, et c'est plutôt pour ça que vous militez contre?
En effet, on pense que l'implant se suffit de lui-même, que c'est une réparation qui fonctionne, or c'est totalement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue scolaire, c'est une mise à l'isolation. On ne peut pas croire qu'une fois que la personne est implantée, elle entendra, elle sera entendante. Non, c'est un gros travail d'éducation, de rééducation, et encore une fois, c'est fluctuant en fonction des personnes, de son propre investissement. Il ne faut pas oublier que chaque perception est totalement individuelle, tout comme chaque personne voit différemment. Et dans un groupe, plusieurs personnes qui parleraient, la personne implantée ne pourrait pas suivre, et c'est extrêmement fatigable.
D'accord. Donc ça ne constitue pas une réparation, cet implant cochléaire. C'est pas une réparation.
Le corps médical le dira. mais il manque de il manque davantage de réflexion sur l'après. Effectivement, il n'y a pas de recherche statistique sur l'après la période scolaire, sur l'aspect insertion professionnelle, savoir comment l'implant a des conséquences sur l'insertion professionnelle. Il n'y a pas de recherche statistique viable sur ces questions.
On va passer à la pause musicale. D'écouter Dépêche Mode, Enjoy the Silence. J'avais demandé à notre invité s'il avait une suggestion, sachant que je ne savais pas trop si justement dans la communauté sourde, les gens avaient des musiques qu'ils aimaient particulièrement pour justement grâce à ces vibrations. Et il m'a dit de mettre quelque chose en lien avec le silence. Donc j'ai trouvé que cette chanson était appropriée. Donc nous sommes toujours avec Olivier Chétrit, anthropologue sourd qui travaille sur les cultures sourdes. Enfin là, je sais jamais d'ailleurs s'il vaut mieux dire là ou les cultures sourdes. Alors, dans cette troisième partie d'entretien, avant d'attaquer vraiment la question de l'intégration, on a quelques questions sur les interactions entre sourds et entendants. Alors, on est aussi un peu en retard, donc on va essayer de faire assez efficace. Pour commencer, j'aimerais que vous nous éclairiez, que vous introduisiez le concept d'audisme.
Alors, sur la question de l'audisme, c'est une notion qui, au départ, émerge des États-Unis, d'un Tom Humphries, en 1975, qui a pris conscience de justement cet audisme. Alors ça vient évidemment de la question de Derrida sur la question de la discrimination, du phonocentrisme. Et de l'ethnocentrisme. C'était déjà une terminologie qui était employée, mais aux États-Unis, le terme émerge. Donc audisme vient de audio et de... et de isme, comme le sexisme ou d'autres formes de discrimination. Et on sait qu'aux États-Unis, il y avait des communautés très puissantes de femmes, de personnes noires, racisées, qui étaient déjà valorisées. Et la question de l'audisme était uniquement centrée sur les personnes entendantes qui provoquent des discriminations envers les personnes sourdes. C'était uniquement dans ce cadre-là. Rien à voir encore avec le racisme ou autre forme de discrimination. Et donc, il y a de multiples situations, en famille, au travail, dans le cadre de l'éducation, enfin, toutes les situations possibles, imaginables. Il y a de l'audisme conscient et de l'audisme inconscient. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Un sourd qui interpelle un autre sourd en disant « Mais tu sais, tu t'es trompé parce que les entendants ont raison. » Voilà, c'est un audisme inconscient. Et souvent, les sourds, aujourd'hui, portent plainte dans le cadre du travail sur des discriminations, sur des privations, par exemple sur l'impossibilité de requérir la présence d'un interprète quand ils sont au tribunal ou en milieu carcéral, où il est nécessaire d'avoir un interprète, où on leur répond « Non, ce n'est pas possible. » Voilà, c'est une forme de discrimination. Et donc, j'ai un projet d'article sur la question de l'audisme au sein du théâtre.
Du théâtre en général, pas de l'IVT.
Non, non, non. À IVT, il n'y a pas, puisque ça émane des sourds. Non, des sourds dans le milieu du théâtre,
d'accord.
Voir comment se déroule leur situation.
Alors, et quels sont les désirs de la communauté sourde en termes d'intégration? Est-ce qu'il y a... Alors, parce qu'on a vu un peu les questions de réparation, entre guillemets, avec l'implant cochléaire, il y a un certain rejet, alors peut-être pas total, mais il y a un certain rejet. Donc le fait d'être transformé en entendant, en tout cas, ça, c'est pas vraiment ce qui est recherché. Et il y a aussi un rejet d'une citoyenneté à part.
Concernant la question du rejet, c'est-à-dire que ça veut dire ne pas accepter sa condition de sourd. Par exemple, si on doit parler des personnes trans, une personne qui accepte et qui souhaite et qui se mobilise contre le fait de l'assignation d'être un homme ou une femme. Est-ce que pour autant ces personnes sont considérées comme des sous-citoyens? Alors, les sourds utilisent souvent cette terminologie de sous-citoyen, puisque la société est inadaptée dans la question de l'accessibilité. Et c'est une discrimination, par exemple, sur la question du vote, sur les débats politiques. Vous avez vu la situation, justement, des sous-titres à la télé, avec la présence d'interprètes dans l'écran, mais réduit à la taille d'un timbre-poste. Vous pensez que le public peut voter en pleine conscience, sauf que l'accessibilité n'étant pas au rendez-vous, le choix est amoindri en fonction des personnes qui souhaiteraient voter. Tous les propos ne sont pas rendus accessibles. On n'a pas accès à l'information dans sa forme la plus exhaustive. Et c'est problématique. Et c'est en ça que je disais que j'ai bon espoir que les services publics soient complètement, mais complètement accessible et égalitaire. Alors, le terme d'égalité des chances, pour moi, est un terme bien trop employé et abusif, mais c'est une loi, on sait qu'elle date du 11 février 2005 sur la question d'égalité des chances. Il y a des pas qui sont faits, mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans cet aspect-là et dans cette ambition.
Alors, une dernière question, Olivier Chétrit. Pour terminer l'entretien, quelle est l'importance de la revendication actuelle de la reconnaissance de la LSF comme une langue à part entière?
La loi de 2005 reconnaît la langue des signes dans un champ du handicap d'une langue considérée comme un outil. Sauf que ce n'est pas ça, c'est une langue vraie, naturelle, comme pourraient l'être les langues minoritaires. Et ce que l'on souhaite, c'est que la langue des signes soit inscrite dans la Constitution, parce que ça permettrait un renversement de la visibilité de la langue, où on pourrait permettre justement l'accessibilité des services publics avec la présence d'interprètes ou de sous-titrage dans les émissions de télé, aux informations. Quand on se rend chez France Travail, par exemple, la présence prévue d'interprètes, quand le gouvernement a des prises de parole, faire présence automatique d'interprètes en langue des signes, parce que aujourd'hui, on a le droit à 3 heures par mois d'interprétariat à distance, en visio-interprétation, quand on a besoin de faire de passer des appels. Et il y a des listes d'attente qui peuvent parfois s'allonger jusqu'à 3 heures pour avoir très peu de temps. Je crois qu'en France, on peut dénombrer environ, dans la communauté professionnelle des interprètes, seulement 500 interprètes. Pour 250 000 sourds-signeurs en France. Donc c'est en cela que... il faudrait faire cette reconnaissance constitutionnelle, mais je pense que ça effraie un peu de monde.
Et du coup, petit complément à la question, est-ce qu'il y a des pays où c'est le cas, où elle est reconnue comme une langue à part entière, où elle est inscrite dans la Constitution ou pas ?
Absolument. Au Portugal, en Suède,
pas aux États-Unis.
En Islande, je crois qu'il y a 27 pays qui ont déjà reconnu au sein de leur constitution, et la dernière en date, la Grèce.
D'accord. Et on sent des...
Non, pas aux États-Unis, pour répondre à votre question.
D'accord. Et est-ce qu'on sent, en quelques mots, est-ce qu'on sent que ça apporte des différences ?
Ah oui. Oui, oui. Par exemple, au Portugal, il y a eu énormément d'avancées sur les questions de l'employabilité des personnes sourdes par rapport à la France, où la situation des sourds est extrêmement complexe aujourd'hui sur la question du travail et de l'embauche. Encore une fois, les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, sont contraintes par un taux de 6% d'embauche. Mais si on regarde dans ce pourcentage-là, même si on l'atteint, on est une part congrue de cette proportion en tant que personne sourde embauchée. Alors qu'au Portugal, ils ont déjà fait des avancées énormes par rapport à cela.
On va souhaiter que cette émission des Voix du Crépuscule soit le plus diffusée possible, le plus écoutée possible et le plus vue possible si jamais notre filmage a réussi. Et en réitérant la demande que la langue des signes française soit reconnue comme une langue à part entière. Merci Olivier Chétrit, merci Jérôme Bourgeois. Je remercie à nouveau le CNRS et le FIPHFP pour la prise en charge de l'interprétariat. Je remercie Iman qui a lu l'édito que j'avais écrit et que notre invité nous a aidé à corriger un tout petit peu et qui a posé les questions avec moi. Je remercie Emeric à la technique et on se retrouve le 13 février. Tout de suite, on laisse place à MapMonde sur Radio Campus Paris.